Jolie soirée avec nous sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. La réforme des retraites en douceur et d'ici l'été prochain, du temps, de la confiance, de la concertation, les mots-clés d'Édouard Philippe aujourd'hui qui cherche à rassurer notamment les régimes spéciaux. Grève d'ampleur demain à la RATP, en attendant les avocats, infirmiers ou encore pilotes de ligne lundi. 500 millions d'euros d'amende et 465 millions de rattrapage fiscal. Google régularise sa situation en France. Belle opération pour Bercy. Au sommaire également ce soir, droite et extrême droite, gênés par le cas Richard Ferrand, mis en examen mais toujours au perchoir de l'Assemblée. L'interdiction symbolique des pesticides dans 5 grandes villes, dont Paris. L'opposant Navalny sous le feu du Kremlin, perquisition en série aujourd'hui. Le retour d'Isabelle Adjani à la chanson. Et au téléphone sonne Fabienne Lemaire.
Eh bien oui, vous savez que 10 maires agressés récemment ont rencontré leur ministre aujourd'hui. Depuis la mort du maire de Signes cet été, ils sont nombreux à avoir parlé de perte de respect, d'autorité, d'incivilité croissante et dangereuse. Ils parlent aussi de perte de sens de leur fonction. Parfois, je suis maire et je veux qu'on me respecte. C'est le thème ce soir, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
On attendait donc le calendrier et la méthode pour la réforme des retraites. On sait maintenant que ce sera après les municipales, projet de loi voté au plus tard en juillet prochain, et que l'exécutif a choisi la méthode douce. Édouard Philippe marchait sur des œufs ce matin au Conseil économique, social et environnemental. Vous y étiez. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Nous sommes déterminés à passer de 42 régimes à un système universel par points en 2025, a dit le Premier ministre. Mais il promet que la réforme se fera sans aucune perte de droits pour les salariés en activité.
Nouvelle méthode donc et nouvelle promesse pour répondre à la multitude de cas particuliers soulevés par les partenaires sociaux, inquiétudes et questionnements légitimes, explique Édouard Philippe aujourd'hui.
Les travaux de Jean-Paul Delevoye et les discussions avec les partenaires sociaux la semaine dernière ont montré que pour certaines professions, l'application pure et simple du nouveau système conduirait à des effets considérables et parfois à de véritables injustices individuelles. On ne va pas le nier, c'est vrai, mais il y a des solutions.
Édouard Philippe ne change donc pas de direction sur le fond de la réforme, mais inscrit cette réforme dans la durée pour ne pas pénaliser les salariés concernés. Les périodes de transition vers le futur système de retraite seront négociées avec les partenaires sociaux et ajustées. Le Premier ministre déplace donc la focale sur les conditions de transition plutôt que sur la réforme des retraites en elle-même.
Si pour certaines professions, la période de transition doit être plus longue, nous l'allongerons. Je pense par exemple, à la question des taux de cotisation pour les indépendants ou à celle des âges de départ pour les catégories actives. De la même façon, peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer pour certains régimes qu'à des personnes plus jeunes et plus éloignées de la retraite.
Au final, la convergence vers le nouveau système de retraite pourrait donc dépasser les 15 années jusqu'ici avancées dans le rapport Delevoye, bien au-delà de 2040, pour garantir aux salariés sur des régimes particuliers qu'ils ne devront pas renoncer à leurs acquis pour entrer dans le nouveau système. En ligne de mire, les régimes spéciaux, les indépendants, mais aussi les salaires des enseignants et des aides-soignants. De nouvelles concertations vont donc s'ouvrir par métier.
Jean-Paul Delevoye sera demain à 8h20 sur France Inter, le haut commissaire aux retraites. Merci Laurent Kramer. Et Édouard Philippe poursuivra, lui, son service après-vente tout à l'heure aux 20h de TF1. Tout cela aura-t-il un impact sur les mobilisations déjà prévues? Sûrement pas sur celles de demain dans les transports parisiens. 10 lignes de métro à l'arrêt d'après la RATP et les gares de RER fermées en dehors des heures de pointe notamment. Ce vendredi 13 sera inédit depuis 12 ans et Christine est sûre de ne pas arriver à son travail. Elle est gardienne d'immeuble dans le 16e arrondissement de la capitale, mais elle se lève à 4h30 du matin, elle prend un bus, deux métros pour venir d'Aubervilliers, 1h30 de trajet matin et soir, la galère à coup sûr demain.
Je suis dans la Mecque quoi, quand il y a grève je souffre beaucoup, il faut marcher d'abord à pied, il faut chercher le transport du bus pour faire des correspondances de gauche à droite, on s'embrouille, le temps de quitter là-bas c'est presque 3h, parfois on arrive, parfois on n'arrive pas. On arrive peut-être en retard. Moi, je dois être à mon boulot à 6h moins le quart.
Et si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé, j'imagine.
Si je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Quand il y a la grève, on ne nous paye pas. Hein. On n'est pas payé, quoi. C'est comme ça.
C'est pour ça que Christine dit aussi à Béatrice Duguay qu'elle va essayer de dormir dans l'immeuble où elle travaille ce soir. Lundi, toujours pour défendre leur régime de retraite, grève des avocats, pilotes de ligne, hôtesses, stewards, plus quelques infirmiers et médecins avant les mobilisations syndicales les 21 et 24 septembre.
Le gros chèque de Google pour solder ses contentieux fiscaux dans l'Hexagone.
Près d'un milliard d'euros validé par une convention signée avec Bercy et qui évite un procès aux géants américains dont le siège européen est en Irlande où l'impôt sur les bénéfices des sociétés était le plus faible du monde. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Un milliard d'euros dans les caisses de l'État, c'est la très bonne opération du ministère de l'économie.
Oui, ce milliard correspond à deux choses. D'une part, à un rattrapage rétroactif sur les sommes que Google devait au fisc français, et d'autre part, à une amende dont s'acquitte le géant américain pour mettre un terme aux poursuites engagées par le parquet national financier. Vu de Bercy, c'est à la fois une bonne nouvelle pour les finances publiques et pour l'équité fiscale. La transaction avec Google tombe à pic au moment où la France instaure sa taxe sur les géants du numérique et en attendant que l'OCDE se saisisse de la question au niveau international. Google, d'une certaine manière, accepte ce soir le principe de payer des impôts dans un pays où il fait des bénéfices. De tels accords avaient déjà été passés dans d'autres pays ces dernières années, au Royaume-Uni, en Italie notamment, plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois. Mais là, le chèque d'un milliard au fisc français signe un record. La fin d'une procédure de plus de 3 ans, sauf surprise peu probable, Google disposant d'un délai de 10 jours pour se rétracter.
Fabien Cazot. La compagne de Richard Ferrand, à son tour entendue à Lille, toujours dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, qui vote au président de l'Assemblée une mise en examen depuis la nuit dernière pour prise illégale d'intérêt. Le quatrième personnage de l'État se dit serein sur la suite et n'entend pas quitter le perchoir. L'Élysée fait savoir qu'il a le soutien et la confiance d'Emmanuel Macron, là où d'autres, au Palais Bourbon, réclament sa démission, comme le patron du PS, Olivier Faure. Mais, du côté du Rassemblement National et des Républicains, par exemple, Cécilia Arbonnat en est plus embarrassée à cause des assistants d'eurodéputés à Bruxelles et du procès Fillon.
Oui, ce sont des sourires gênés, des commentaires prudents chez les Républicains. Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loire, pèse chaque mot, chaque respiration.
Écoutez, ce qui se passe en tout cas est quand même extrêmement gênant, que le quatrième personnage de l'État puisse prétendre continuer à assumer ses fonctions, etc. Mais après, la décision, elle relève de sa responsabilité.
Au milieu du guet est embarrassé lui aussi le centriste de la Marne, Charles de Courson.
Il n'y a aucune obligation pour le président de l'Assemblée nationale de démissionner. Mais il y a un problème politique. C'est que dans ce pays, hélas, malgré la présomption d'innocence, quand vous êtes mis en examen pour l'opinion publique, vous êtes présumé coupable. C'est comme ça.
Coupable ou non, ce n'est pas le problème, s'énerve Nicolas Dupont-Aignan, un des seuls à réclamer la démission de Richard Ferrand.
Oh, je la demande parce que c'est un principe de base de confiance entre les Français et la République. Pourquoi ce qui vaut quand il était ministre ne vaudrait pas quand il est président de l'Assemblée ? Moi, qu'on m'explique. Ça me paraît tellement évident et vous verrez qu'il sera obligé de partir. Et c'est quand même stupéfiant aussi de voir la classe politique qui est terrorisée. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de mises en examen.
Les grands absents, ce sont les élus du Rassemblement National, transparents et silencieux. Aucun communiqué du parti de Marine Le Pen, juste quelques tweets ici ou là pour rappeler la présomption d'innocence.
Cécilia Arbonnat à l'Assemblée, tout cela alors que les dates du procès Fillon viennent d'être confirmées dans l'affaire des emplois fictifs de Pénélope. Ce sera du 24 février au 11 mars prochain. L'ancien Premier ministre devra notamment répondre de détournement de fonds publics, son épouse de complicité et recel.
Elles s'unissent pour peser symboliquement dans le débat.
5 grandes villes interdisent les pesticides sur leur territoire. Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand. 5 villes qui s'ajoutent aux dizaines de communes rurales qui ont déjà pris des arrêtés similaires en pleine polémique sur les distances minimales entre les zones d'épandage et les habitations. Le gouvernement suggère 5 à 10 mètres. Associations et écologistes veulent 150 mètres. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, dénonce un coup de com', puisque la loi interdit déjà depuis 2 ans aux grandes villes d'utiliser des produits chimiques pour entretenir les espaces verts. Mais le maire socialiste de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, sait très bien que son arrêté a toutes les chances d'être annulé lui aussi en justice, comme à Langouette en Bretagne. Mais il veut tout de même marquer le coup, il le dit à Emmanuel Moreau.
Quand il y a eu l'arrêté du maire breton, on a échangé avec un certain nombre de maires de grandes villes qui ont l'habitude de discuter de ces questions et on s'est dit que par solidarité, on pouvait, tout en connaissant la valeur juridique de l'arrêté, prendre un arrêté élargissant à l'ensemble du territoire communal. Ça concerne essentiellement chez nous des zones industrielles, par exemple les emprises SNCF. Ça avait fait débat d'ailleurs, rappelez-vous, au conseil municipal. Et l'objectif, c'est on n'est pas dupes, c'est d'abord d'ouvrir un grand débat pour obtenir une transformation de la législation sur ce domaine.
Les premiers bus à hydrogène en service en France depuis ce matin entre Versailles et Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Deux bus qui ont besoin de 20 minutes de recharge pour 300 km d'autonomie. D'autres bus à hydrogène sont attendus dans un mois dans le Pas-de-Calais et à Pau. Notre santé, alors que la téléconsultation est remboursée depuis un an tout juste. Des débuts timides pour cette pratique qui consiste à voir son médecin en vidéo. L'assurance maladie en compte 60 000 en un an, c'est peu parce que peu de cabinets sont équipés de webcam et peu de patients s'y risquent encore. Mais la tendance est à la hausse, comme chez cette pionnière à Paris qu'a rencontrée Véronique Julia.
Médecin généraliste à Paris, Sophie Tawil fait de la téléconsultation depuis le mois de janvier. Déjà 2 à 3 téléconsultations par jour, c'est 10% de son activité, plutôt à l'heure du déjeuner. Et la demande, dit-elle, est croissante. Le public, surtout des jeunes actifs, quelques retraités aussi. Durée de la consultation, pas plus de 10 minutes, au même tarif que la consultation en cabinet. On l'appelle pour des motifs simples, un panari, un mal de gorge, un renouvellement d'ordonnance.
Ça va être le renouvellement de la pilule pour le dépannage, par exemple. Ah ben voilà, je me suis rendu compte que c'est ma dernière plaquette, je peux pas venir vous voir ce mois-ci, est-ce que, voilà. Mon enfant a l'œil qui coule, il est enrhumé, il n'a pas de fièvre, est-ce que je dois venir, qu'est-ce que je dois faire ?
Finalement, la vidéo permet à Sophie de régler et de facturer beaucoup de cas qu'elle devait auparavant gérer par mail ou par téléphone. Avantage pour le patient, les délais d'attente pour un rendez-vous sont raccourcis, moins de 48 heures contre plusieurs jours pour une consultation standard. Pour Sophie, ça peut clairement permettre d'éviter des passages aux urgences.
Enfin, moi, je fais pas mal de pédiatrie, donc pas mal de conseils pour les enfants. Et puis même pour les adultes, hein, les gens ont besoin d'être beaucoup rassurés. C'est une grosse partie de notre travail. Hein.
De rassurer.
De rassurer, oui. Donc oui, il y a toujours une part de régulation.
Petit rappel, théoriquement, la téléconsultation pour être remboursée doit être faite auprès d'un médecin qui a déjà vu le patient en cabinet. À ce jour, les 2/3 des téléconsultations sont réalisées par des généralistes.
Le sport à l'école, dans le viseur de la Cour des comptes, qui parle d'angle mort de la scolarisation. Les sages soulignent par exemple que les 3 heures d'EPS par semaine en primaire sont rarement faites, alors qu'elles sont obligatoires. Ils critiquent aussi l'organisation trop complexe des associations scolaires qui gèrent les activités sportives du mercredi après-midi. Ils sont spécialisés dans les robes de mariée. Le distributeur Pronupsia est en liquidation judiciaire, placé en cessation de paiement depuis un mois, Germain Treille, à cause d'une baisse de son chiffre d'affaires au printemps.
On va faire en sorte de trouver une solution, explique le PDG de Pronupsia, Philippe Massé, que nous avons contacté. Il se dit touché, mais pas abattu. Depuis le début du mois d'août, son entreprise est en cessation de paiement, mais a été autorisée à poursuivre son activité. Un administrateur judiciaire a été nommé. Je suis à ses côtés, on est combatif, poursuit Philippe Massé. De graves problèmes de trésorerie sont apparus au printemps dernier en raison d'une baisse de 10% du chiffre d'affaires. Le groupe emploie 234 personnes partout en France, dont une trentaine au siège social à Louvernay et dispose d'un maillage national avec 41 boutiques au total, toutes dans de grandes villes. Plusieurs facteurs expliquent la crise que traverse Pronupsia. Un phénomène sociologique, les Français se marient moins qu'avant, le PACS, simple formalité administrative, sans grande cérémonie, représente désormais près de la moitié des unions. Un phénomène économique, le mouvement social des Gilets jaunes au cours du premier trimestre, fut désastreux pour la société. Enfin, la concurrence avec Internet. On peut aujourd'hui acheter une robe de mariée en Chine, sans contrôle, sans droit de douane. Nous ne sommes pas protégés, se désole le patron de l'entreprise.
La fille du roi d'Arabie Saoudite condamnée à de la prison avec sursis à Paris. 10 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende pour des violences commises par l'un de ses gardes du corps. C'était il y a 3 ans avenue Foch sur un artisan peintre qui faisait des travaux dans la résidence. La demi-sœur du prince héritier est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Elle n'était donc pas au tribunal. Et puis vous vous souvenez du buste d'Hitler et du drapeau nazi retrouvé dans les caves du Sénat. Information révélée par le journal Le Monde il y a quelques temps. Legs un petit peu embarrassant. Eh bien, ces deux pièces vont être proposées au musée de l'armée ou au musée de la libération de Paris. En dépôt, ce sera plus sûr.
Le commissaire européen chargé de protéger notre mode de vie européen a du mal à passer.
Oui, Ursula von der Leyen est pressée de toutes parts pour changer l'intitulé du portefeuille du grec Margaritis Schinas, qui gère aussi les migrations. Dernière critique en date, celle du prédécesseur de Madame von der Leyen, Jean-Claude Juncker, dans un entretien accordé à Euronews.
I don't like the idea to oppose.
Je n'aime pas l'idée d'opposer le mode de vie européen aux migrations. Accepter ceux qui viennent de loin fait partie du mode de vie européen. Le mode de vie européen, c'est rassembler nos talents et nos énergies, et ça passe par le respect des autres. Peu importe notre couleur, notre pays d'origine. Connaissant Margaritis très bien, je sais que l'intitulé ne correspond pas à ses valeurs et qu'il doit être changé.
And I think that this will have to be changed.
L'offensive du pouvoir en Russie contre l'opposant Alexei Navalny, plus de 200 perquisitions pour la seule journée d'aujourd'hui dans une quarantaine de villes à travers tout le pays. Fouilles policières des domiciles et des bureaux de ses collaborateurs et sympathisants avec saisie de matériel. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Sébastien.
Alexei Navalny dénonce l'hystérie du Kremlin. C'est clairement Claude une réponse au revers électoral du parti au pouvoir le week-end dernier.
Oui, alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que officiellement, le collectif anticorruption d'Alexei Navalny, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'une somme d'1 milliard de roubles, environ 1 400 000 euros. Et les policiers russes ont agi dans le cadre d'une décision d'un tribunal moscovite prise depuis une semaine. Mais l'application de cette décision, par son caractère simultané à grande échelle, dans plus de 200 lieux à la fois, pose vraiment question. Si on la met en parallèle avec d'une part les manifestations interdites soutenues tout l'été par le collectif Navalny pour dénoncer l'arbitraire du pouvoir, et d'autre part avec surtout le recul conséquent du parti présidentiel dimanche dans les élections locales à Moscou à cause de la stratégie d'Alexei Navalny appelant à battre par tous les moyens les candidats du pouvoir, difficile évidemment de ne pas avoir là une conjonction de facteurs. Un peu comme si la justice russe voulait contenir le développement du collectif anticorruption en région pour éviter que dans les zones les plus éloignées ne se répète dans un proche avenir le scénario de la capitale, visiblement irritant à plus d'un titre.
Merci Claude Brouillot en direct de Moscou. Le sport et ce nouveau revers des Américains au mondial de basket en Chine, battu 94 à 89 par la Serbie après leur défaite contre les Bleus hier. Les coéquipiers de Rudy Gobert qui ont rendez-vous demain contre l'Argentine en demi-finale. L'équipe de France de volley affronte elle la Roumanie ce soir en ouverture de l'Euro, c'est en France, avec à la clé pourquoi pas un nouveau succès comme en 2015 en Slovénie, où déjà un homme était aux commandes, l'entraîneur Laurent Tilly, à la méthode bien rodée Guillaume Batin et aux discours affûtés.
La technique et la tactique n'ont plus de secret pour Laurent Tilly. 406 sélections en tant que joueur, près de 300 en tant qu'entraîneur. Alors c'est dans les mots qu'il tente de faire la différence.
C'est comme si on avait un revolver avec 6 balles, pas plus. Parce que la balle qu'on aura utilisée une fois, on ne pourra pas l'utiliser une deuxième fois. Les discours qui se répètent n'ont plus la même force. Donc j'ai un barillet à 6 balles et je fais très attention aux balles que je tire.
Il utilise des citations de grands auteurs, des dessins, des schémas, des phrases choc.
Pendant 2-3 ans, j'aimais bien reprendre l'extrait de Al Pacino dans L'Enfer du Dimanche quand il fait son discours qui est pour moi le plus beau discours qu'un coach puisse faire. Il y a tout.
Soit nous guérissons, aujourd'hui, en tant qu'équipe. Soit nous mourrons tous, en tant qu'individu.
Il faut bien jouer, il faut gagner, il faut se bouger. C'est des banalités que tout le monde dit et qu'il ne faut pas dire. J'essaye de faire attention à l'expression que je ne vais pas utiliser ou que je vais utiliser. Les mots et le corps et l'attitude sont beaucoup plus puissants que le raisonnement dans le sport. J'ai appris dans le sport que les mots étaient vraiment des lames de rasoir.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Laurent Tilly n'a rien prévu pour l'instant. Il adaptera son discours au dernier moment. En fonction de l'état d'esprit de ses joueurs.
Il serait temps de s'y mettre, c'est à 20h45, France-Roumanie de volley, ouverture de l'Euro. On termine avec le retour d'Isabelle Adjani, la chanteuse. L'actrice avait déjà collaboré avec Gainsbourg en 83, on se souvient du Petit Pull Marine et d'Ohio. Elle pose cette fois sa voix sur ce morceau du duo électro The Penelopes. Just a specially given thought. Meet Me By The Gates, c'est le titre de ce single des Penelopes qui sortira le 25 octobre avec Isabelle Adjani qu'on entend.
Mais c'est ça,
très
je me demandais où on l'entendait en fait dans l'extrait.
C'est bien elle.
Okay.
Et puis on n'oublie pas d'aller écouter le nouveau podcast de France Inter, Poursuite, podcast d'actualité porté par les amis Bruno Duvic et Thibaut Cavaillès. C'est tous les jeudis à 18h et le premier est consacré à l'affaire du Mediator avant le procès qui débute dans 10 jours.
Eh bien tout ça c'est noté bien sûr Sébastien Paour. Merci beaucoup, bonne soirée Sébastien. Nous on reste ensemble pour le téléphone sonne. Bien sûr on va parler des maires, les maires des petites communes qui ont rencontré leur ministre aujourd'hui, qui veulent qu'on les respecte. Sinon, la météo, là, ça va.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous ? comment ça va?
Et donc, Élodie Calac, on prend les mêmes et on recommence demain alors?
Oui, une perturbation s'étendra des côtes de la Manche jusqu'à Champagne-Ardenne avec un ciel assez gris, quelques gouttes. On pourra espérer de petites éclaircies l'après-midi. Du sud de la Bretagne vers l'Île-de-France, la Sologne, la Lorraine, le nord de l'Alsace. Pas mal de nuages le matin, mais ça s'éclaircira l'après-midi. Et puis en descendant vers le sud, beaucoup de soleil. Juste quelques grisailles parfois présentes au sud de la Garonne, mais ça ne durera pas.
Et des températures en hausse?
8 degrés à Nevers le matin, 9 à Mulhouse et à Aurillac, 13 degrés à Tours, à Lyon, 16 degrés pour Lille, Paris et Montpellier, jusqu'à 21 à Nice. L'après-midi, 20 à 21 degrés sur les régions voisines de la Manche, 24 à 30 sur les autres régions du Nord. Ça montera d'un cran au sud, 27 à 33 degrés, les 33 degrés du côté de Nîmes.
Et sinon, un petit mot pour le week-end?
Estival, très ensoleillé avec des températures en hausse, jusqu'à 30 degrés en région parisienne et 32 à 33 du sud vers le Val-de-Saône.
Et tout ça, c'est noté, Élodie Calac de Météo France. Merci.